Place publique.
Plein feu sur la jeunesse à l'occasion de la 10e journée intercantonale de l'apprentissage. Nous parlerons des Swiss Skills 2018 qui se dérouleront en septembre à Berne. Il s'agit des championnats suisses des métiers qui mettent en avant les meilleurs apprentis du pays. Emploi et préférence indigène light, les mesures qui visent à appliquer l'initiative sur l'immigration de masse acceptée en 2014 entrent en vigueur le 1er juillet. La loi prévoit certaines contraintes pour les employeurs. Tour d'horizon avec le chef du service jurassien de l'économie et de l'emploi, Claude-Henri Chalère, après le flash de 18h30. Le hooliganisme fait à nouveau parler de lui en Suisse après les incidents de dimanche lors du match de football entre Lausanne et Thun. Un phénomène inquiétant lorsque Neuchâtel-Xamax fera son retour en Super League la saison prochaine. Éclairage tout à l'heure avec Julien Pralon, le chef de la rubrique sportive de l'ATS.
Jusqu'à 19h, place publique. François Comte.
Bonsoir. La Suisse a vécu aujourd'hui au rythme de la journée intercantonale de l'apprentissage. Une journée qui s'est déroulée dans 20 cantons et qui a été relayée par 27 radios régionales, dont RJB, RTN et RFJ. L'occasion d'évoquer les Swiss Skills 2018, les championnats suisses des métiers qui se dérouleront du 12 au 16 septembre à Berne. Il s'agit du plus grand spectacle professionnel au monde. Et pour en parler, nous recevons Claude Potier, membre du comité directeur des Swiss Skills 2018. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, quelques mots de présentation sur cette manifestation, les Swiss Skills. Quelques caractéristiques à nous présenter?
Alors c'est vrai, comme ça vient d'être rappelé, il s'agit de la plus grande manifestation donc de présentation des métiers, des concours de métiers. C'est plus de 1000 participants, 1050 participants, 66 organisations du monde du travail présentes. Et puis la manifestation se déroulera sur l'équivalent de 14 terrains de football, 100 000 mètres carrés d'exposition. On aura 75 métiers en concours et 60 métiers en démonstration.
Et pratiquement, comment se déroule la manifestation? Il y a la partie concours, mais pas exclusivement.
Alors effectivement, il y a une partie concours, donc dans les différents métiers, les meilleurs apprentis de Suisse vont concourir durant 3 ou 4 jours en fonction des professions. Et puis, sur l'ensemble des stands, il y aura aussi des parties de démonstration. Les parents, les jeunes qui vont se rendre à Berne vont pouvoir découvrir le métier, essayer aussi, s'essayer à certains métiers, faire quelques travaux. Et puis également, donc 60 métiers qui, eux, ne sont pas en concours, mais qui sont en démonstration, où les familles vont pouvoir découvrir ces professions.
Et quels sont les buts, finalement, des Swiss Skills?
Alors, le but premier, bien sûr, c'est de continuer à valoriser la formation professionnelle suisse, de montrer l'importance de ce système de formation dans notre pays, d'encourager aussi les jeunes et les familles à s'engager dans la voie professionnelle. Et puis, c'est aussi de motiver ces jeunes en montrant qu'on peut non seulement faire un bon apprentissage, mais on peut être aussi le meilleur dans ce métier et puis aller au-delà des exigences minimales qui sont fixées dans les professions.
Créer une compétition, finalement, entre les apprentis, est-ce que c'est une bonne manière de promouvoir l'apprentissage?
Alors, quand on essaie de motiver un jeune à exceller, à être le meilleur dans sa profession, c'est évidemment, ça montre le niveau général. Il y a une forme d'émulation comme ça qui se passe, de motivation interne. Et c'est vrai qu'on a vraiment des jeunes qui sont motivés, qui, en plus d'apprendre leur métier, d'être passionné pour leur métier, essaye d'aller encore au-delà, de faire plus, de s'entraîner le week-end, les fins de semaine, et puis d'essayer de rivaliser avec les meilleurs camarades dans la profession sur l'ensemble du pays.
Et valoriser les meilleurs, finalement, par le biais d'un concours, d'un championnat, d'une compétition, est-ce que ce n'est pas une manière de cacher, finalement, ceux qui ont davantage de peine dans l'apprentissage d'un métier?
Alors, justement pas. Et d'ailleurs, une récente enquête qui a été faite l'année dernière a démontré que plus de 40% des jeunes suisses qui ont gagné une médaille, que ce soit au niveau national ou international, eh bien, faisaient partie des jeunes qui avaient peut-être plus de difficultés à l'école, qui avaient moins de motivation dans le cursus scolaire normal. Et puis, à travers la découverte d'un métier, la passion pour un métier, la motivation, ben, ont réussi à exceller, à briller dans leur apprentissage, dans la profession qu'ils exercent.
Donc, c'est une compétition, finalement, qui peut s'adresser à n'importe quel apprenti?
Alors effectivement, à tout un chacun, il faut être passionné, motivé par son métier, l'apprendre. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi dans les enquêtes qu'on a fait dans les cantons que ce n'est pas forcément sur la base de résultats scolaires, mais c'est vraiment la pratique professionnelle, hein, c'est le geste qu'on va apprendre et répéter qui va être déterminant. Et ça donne la possibilité à des jeunes dont peut-être la carrière aurait pu être tronquée par des résultats scolaires peu significatifs, qui ont obtenu une médaille d'or, et d'être champion du monde dans un métier, effectivement, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Et c'est là vraiment où tout se joue, au moment où on découvre le métier, on met la main à la pâte, c'est là que peut se traduire une forme de passion, de cristallisation.
Alors tout à fait, et il y a un autre élément qui est déterminant, c'est aussi la passion, la transmission du savoir-faire par le maître formateur, par le maître d'apprentissage, le fameux adulte, la personne expérimentée qui va transmettre son métier, la passion de son métier à un jeune. Il y a des échanges là qui sont extraordinaires entre les formateurs dans les entreprises, les patrons d'entreprises, et puis cette jeunesse qui a envie de découvrir, d'apprendre beaucoup de choses.
Alors si on revient aux Swiss Skills, il y avait eu une première édition en 2014. Est-ce que entre 2014 et 2018, la manifestation a encore pris une ampleur supplémentaire?
Alors c'est vrai qu'entre 2014 et aujourd'hui et 2018, donc le nombre de participants, comme je l'ai dit, a augmenté, le nombre d'associations professionnelles aussi qui participent augmente. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ces deux concours centralisés, donc des métiers, il y a dans tous les cantons, dans les salons des métiers, dans les différentes manifestations, il y a des concours aussi régionaux ou nationaux qui ont lieu toutes les années, qui permettent de sélectionner les meilleurs apprentis de notre pays.
Ces concours, à l'échelle cantonale, ils existaient aussi à l'échelle nationale, mais là, les Swiss Skills, ça rassemble vraiment la crème de la crème, on va dire, au niveau du pays.
Alors, non seulement ça rassemble la crème de la crème, mais c'est aussi une vitrine exceptionnelle où on peut voir, comme je l'ai dit, plus de 1000 candidats qui vont s'affronter. Donc, on a vraiment, dans les concours régionaux ou cantonaux, on a une petite dizaine ou quelques apprentis qui s'affrontent. Là, c'est vraiment les meilleurs de l'ensemble des cantons de Suisse. Et puis, on essaye aussi, à travers cette vitrine-là, de motiver la Suisse romande qui est moins encline à la compétition, aux concours nationaux de ce type-là que la Suisse alémanique, d'essayer de motiver justement plus de jeunes romands à glaner une médaille d'or et à représenter ensuite la Suisse dans les concours internationaux.
Comment vous l'expliquez, cette différence entre Suisse romand et Suisse alémanique? Les Suisses romands, on a moins l'esprit de compétition?
Alors, c'est peut-être pas qu'on ait moins l'esprit de compétition, mais on a moins cette culture, on a moins une connaissance aussi de Swiss Skills. Swiss Skills, c'était basé essentiellement en Suisse alémanique. C'est peu présenté et profilé en Suisse romande. Donc, certaines associations, certaines entreprises ne connaissaient pas l'existence de ces concours. Mais on voit que chaque fois que maintenant une entreprise, une association connaît ces concours, y participe, on arrive aussi à sortir des champions. C'était l'exemple, par exemple, l'année dernière, de Bruno Pravato, le maçon valaisan, qui a gagné la médaille d'or au championnat européen, aux Euroskills à Göteborg.
Alors les Swiss Skills, une manifestation qui se développe, comment est-ce que vous voyez son avenir à plus long terme?
Alors il y a actuellement une réflexion au niveau national pour savoir si c'est une manifestation qui doit avoir lieu tous les 2 ans ou maintenir la cadence des 4 ans. Mais ce qui est important, c'est que, indépendamment de la cadence de cette manifestation centralisée, il faut que dans les salons des métiers, dans l'ensemble des cantons, dans les écoles professionnelles, on puisse multiplier les concours et faire en sorte qu'un maximum de gens et de familles connaissent ces concours et puis y participent.
Un tout dernier mot, les Swiss Skills servent également à préparer l'équipe de Suisse qui va concourir ensuite dans des manifestations européennes, mondiales. Quel est le rang, la place de la Suisse sur ces deux échelles?
Alors depuis une dizaine d'éditions donc, qui ont lieu au niveau mondial tous les 2 ans, la Suisse est presque systématiquement, il y a eu une seule fois dans les 20 dernières années où elle n'était pas sur le podium, mais on finit toujours entre premier, deuxième et troisième du classement dans les nations du monde et systématiquement première nation européenne. Et ce qu'il faut remarquer aussi, relever, c'est que nous sommes quasiment le seul pays qui atteint ce résultat avec notre système d'apprentissage, notre système de formation duale.
Alors la Suisse a donc un rang à défendre. Claude Potier, merci d'avoir été en direct dans Place Publique. On rappelle que vous êtes membre du comité directeur des Swiss Skills 2018. Il est temps de s'informer avec le flash d'Alizé Lichti.
Bonsoir. Le canton de Berne ferme des ORP. 6 succursales des offices régionaux de placement vont mettre la clé sous le paillasson. Celles de Moutier, de Lanneville, de Saint-Imier en font partie. La direction de l'économie bernoise justifie ce choix par des arguments financiers. Les tunnels du Mont Terrier et du Mont Russelin dans le Jura ont récemment changé de catégorie. Ils ont passé du statut d'autoroute à celui de semi-autoroute depuis peu de temps. Ce changement a été imposé par l'Office fédéral des routes qui indique que tous les tunnels bidirectionnels doivent être catalogués ainsi. Un blessé aujourd'hui dans un crash d'hélicoptère. L'appareil de la compagnie Air Zermatt a chuté sur un plan d'eau près de Rarogne en Valais. Le pilote a pu s'extraire de la carcasse. Massy a été transporté à l'hôpital de Lille à Berne peu avant la mi-journée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'hélicoptère aurait heurté un câble avant de chuter. Jérusalem a accueilli sa deuxième ambassade étrangère. Après les États-Unis lundi, le Guatemala a inauguré ses nouveaux locaux aujourd'hui en Israël. D'autres pays pourraient imiter la décision américaine comme le Paraguay ou la Roumanie. La Super League a aussi son prix. Neuchâtel Xamax FCS a présenté aujourd'hui ses tarifs d'entrée pour la saison prochaine. Les billets prennent l'ascenseur. Par contre, les rabais sur les abonnements vont gagner jusqu'à 39%, soit l'équivalent de 7 matchs gratuits. Et puis pas de quoi se réjouir, le temps de demain s'annonce pluvieux. Les spécialistes de Météo News annoncent beaucoup de nuages et des averses durant l'entier de la journée. Côté température, il fera entre 7 et 9 degrés demain matin et puis jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Excellente soirée.
Place publique.
Les demandeurs d'emploi inscrits dans les offices régionaux de placement auront une longueur d'avance dès le 1er juillet. Ils seront informés en primeur des postes vacants pour les professions qui connaissent un taux de chômage d'au moins 8%. Durant 5 jours ouvrables, les entreprises ne pourront pas publier les annonces par un autre canal que celui des ORP. Il s'agit de l'application du principe de la préférence indigène light qui répond à l'initiative contre l'immigration de masse votée en février 2014. Et pour aider les entreprises à s'y préparer, la Chambre de commerce et d'industrie du Jura et la section de l'Arc jurassien de la Fédération des entreprises romandes ont organisé 2 séances d'information à Delémont. Hier, quelques 60 participants étaient présents. Le chef du service jurassien de l'économie et de l'emploi, Claude-Henri Chalère, a présenté les enjeux du dispositif. Il a également répondu aux questions de l'assistance. Il a surtout dissipé de nombreuses craintes. Claude-Henri Chalère nous a ensuite accordé un entretien. Gabriel Devec lui a tout d'abord demandé pourquoi la mesure faisait si peur aux entreprises.
Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas encore exactement quelle sera la pratique qui va petit à petit se mettre en place. Et je crois que les questions qui nous ont été posées aujourd'hui sont tout à fait normales et légitimes. Il peut y avoir des fois des remplacements de personnes à faire dans des délais très courts, liés à l'urgence, donc ça on le comprend tout à fait. En même temps, par rapport à des blocages qui auraient pu être beaucoup plus conséquents que ceux qui ont été décidés par les chambres fédérales, eh bien, il me semble que la solution qui a été adoptée est finalement très pragmatique et qu'on devrait pouvoir la mettre en œuvre, je l'espère, avec le moins de heurts possible.
S'il y a un domaine où on a l'impression que cette mesure va poser problème, c'est le domaine d'activité des agences de placement, dont c'est le métier de trouver des employés pour des postes. Les agences de placement auront quand même des bâtons dans les roues.
Les agences de placement aujourd'hui déjà ont une étroite collaboration avec l'ORP Jura. Alors oui, ce délai de 5 jours pose un certain nombre de contraintes, mais en même temps l'ORP et les agences de placement se connaissent et je pense que les choses devraient se passer dans un esprit de collaboration tout à fait positif.
Vous l'avez dit, 5 jours, ça peut être long. C'est vrai que parfois les engagements, ça se joue dans l'heure. Comment ça va être possible pour l'industrie d'être aussi réactive que maintenant?
Je rappelle que personne inscrite à l'ORP est le plus souvent très rapidement disponible. Si c'est une personne qui est au bénéfice de l'assurance chômage, donc qui est sans emploi au moment où l'offre est mise au concours, cette personne peut être engagée dans des délais très courts. Donc il me semble que là, on peut déjà en partie répondre à l'urgence. Maintenant, il est bien clair qu'on ne répondra jamais à toutes les urgences possibles et imaginables. Ce délai de 5 jours, lui, est incompressible. Et je crois, enfin, malheureusement, qu'il va falloir aussi vivre avec ce délai. Et puis, ça doit faire partie aussi un peu des planifications des ressources humaines. Mais je suis aussi certain que si on met en place une très bonne collaboration entre l'ORP et les entreprises, on a aussi toutes les chances, finalement, de réussir à trouver des solutions intelligentes aux problèmes qui nous seront posés.
À entendre les craintes des membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, on a l'impression qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis de la main-d'œuvre issue des demandeurs d'emploi. Il y a là des a priori à casser en lien avec la mise en place de ce dispositif.
Est-ce que c'est de la méfiance? Est-ce que c'est de la méconnaissance? Je n'ai pas la réponse. Il est bien clair que des personnes inscrites à l'ORP, nous avons des personnes qui ont aussi vécu des moments très difficiles dans leur vie, d'autres qui ont été très longtemps éloignées du marché du travail. Nous nous efforçons, au-delà du conseil qui est fourni par l'ORP, d'aider ces personnes à se réinsérer sur le marché du travail à travers des mesures spécifiques. Nous avons d'ailleurs un centre tout à fait dédié à cet effet à Basse-Cour. Je pense qu'il faut aussi peut-être, de notre côté, que nous fassions encore mieux connaître notre dispositif auprès des entreprises pour leur montrer que nous sommes aussi en mesure de leur fournir du personnel à la hauteur de leurs attentes.
On parle de préférence indigène light. On est bien d'accord. En fait, on parle de préférence pour les demandeurs d'emploi. Ils ne sont pas forcément indigènes.
Alors oui, vous avez raison. Tous les demandeurs d'emploi ne sont pas forcément indigènes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si cette préférence indigène avait été spécifiquement ciblée contre des personnes qui résident à l'étranger, je pense en particulier aux frontaliers, alors nous aurions été complètement en porte-à-faux avec la libre circulation des personnes, ce qui fait que les accords bilatéraux auraient pu être dénoncés.
Alors on parle beaucoup de ces 5 jours ouvrables durant lesquels l'annonce ne peut pas paraître dans d'autres canaux que les offices régionaux de placement. Néanmoins, les entreprises, une fois qu'elles ont soumis ce poste vacant, ne sont pas obligées d'engager les candidats fournis par l'ORP. Est-ce que cette mesure, au final, à part ralentir le processus de recrutement, sera vraiment efficace, puisque les entreprises ne sont pas tenues d'engager les candidats demandeurs d'emploi ?
Alors oui, les entreprises ne sont pas tenues d'engager les personnes qui leur sont préposées par l'Office régional de placement. Il faut toutefois quand même savoir que les objectifs visés par le législateur fédéral, eh bien, ça vise d'abord à tout mettre en œuvre pour épuiser le potentiel de la main-d'œuvre indigène, pas simplement au niveau cantonal, mais également au niveau national. Et puis, c'est aussi quand même de renforcer les chances de réinsertion durable des demandeurs d'emploi. Et je crois que nous devons aussi convaincre la population, et quand je dis nous, c'est les entreprises, l'ORP également, nous devons convaincre la population que ce dispositif voulu par le législateur est efficace et qui permet de contribuer à réduire le taux de chômage.
Claude-Henri Chalère, il ne s'agit pas de n'importe quel poste vacant, il s'agit de postes vacants dans des professions dont le taux de chômage moyen en une année est de 8%.
Oui, tout à fait. Donc il s'agit de professions qui connaissent un taux de chômage égal ou supérieur à 8%.
Là, on est dans des secteurs d'activité. On parle surtout, on est d'accord, de construction, de l'horlogerie, encore de l'hôtellerie.
Oui, absolument. Il faut savoir que la liste qui définit ce taux de chômage par profession est basée sur la moyenne de l'année 2017, année qui, comme on le sait, a été marquée par une conjoncture difficile. Et effectivement, dans les branches que vous évoquez, le taux de chômage était légèrement supérieur dans ces branches à ce qu'il était au niveau national ou dans d'autres secteurs d'activité économique.
On peut avoir l'impression, Claude-Henri Chalère, qu'il ne s'agit que d'un avant-goût, parce qu'on parle d'un taux de 8%, mais le taux va basculer en 2020 à 5%. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de professions théoriquement qui seront touchées. Là, ça va devenir carrément le défi de l'impossible.
Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que la phase dans laquelle nous allons entrer nous permette justement de tester le dispositif, de l'affiner, que les cantons chargés aussi d'appliquer ce dispositif et la Confédération puissent en tirer un certain nombre d'expériences. En même temps, il faut savoir que la conjoncture évolue, elle bouge, elle vit. La conjoncture aujourd'hui est plutôt bonne, on voit que le taux de chômage diminue. Si ces tendances se confirment, probablement que les taux de chômage moyens par profession n'auront pas la même allure que ceux que nous devrons appliquer à partir du 1er juillet 2017. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, raison pour laquelle je ne suis pas pessimiste quant à ce qui nous attend à partir de 2020.
Il y a fort à parier que les offices régionaux de placement auront beaucoup de travail ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour répondre aux questions et puis pour permettre l'adaptation de ce système. Est-ce que vous avez prévu dans l'administration jurassienne, par exemple, des emplois, des EPT supplémentaires ?
Non, clairement non, parce qu'aujourd'hui nous sommes encore incapables d'évaluer avec exactitude la charge de travail réelle supplémentaire que va nous causer cette mise en œuvre de la préférence indigène light, et nous sommes clairement incapables de l'estimer. Et puis j'ai toujours été d'avis déjà de commencer, de démarrer avec les moyens que nous avions à disposition, de prendre déjà toutes les mesures internes que nous pouvions prendre pour faire face aux défis, et puis de voir ensuite comment nous serons en mesure de l'affronter avant de réclamer des moyens supplémentaires. Parce qu'il faut aussi savoir de quels moyens j'ai besoin. Est-ce que c'est plus de conseillers, plus de personnel administratif ? Aujourd'hui, je suis strictement incapable de répondre à cette question.
Pour que le système soit d'entrée de jeu appliqué, est-ce que vous allez mener très vite des contrôles ? Parce que qui dit nouveau système dit aussi pour son efficacité, des contrôles pour qu'il soit appliqué.
Alors, adopté par les chambres fédérales prévoit effectivement des contrôles. Pour l'instant, le dispositif de contrôle n'est pas encore très clair. C'est une question qui doit être aussi réglée au niveau des instances fédérales. Je pense que dans un premier temps, en tout cas, il faut déjà laisser le dispositif se mettre en place. Il faut que nous puissions le tester à l'échelle 1-1. Et quand je dis nous, c'est non seulement le service de l'économie et de l'emploi, c'est également les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et puis nous verrons ensuite comment il vivra. Et je pense que d'ici, de toute manière, la fin de l'année, année prochaine, nous en serons plus sur le dispositif de contrôle à mettre en place.
Donc pas de contrôle, par exemple, avant d'être vraiment fixé sur les modalités de celui-ci ?
Alors à ce stade, je dirais, pour l'instant, tout est ouvert, puisqu'il n'y a pas encore de décision définitivement arrêtée de la Confédération. Donc nous attendons que ce modèle nous soit proposé pour voir à quoi il va ressembler et comment nous aurons à le faire vivre.
Face à ces entrepreneurs pas toujours très accueillants par rapport à cette nouvelle disposition, vous les avez quand même encouragés ou invités à vraiment faire des efforts, car si cette mesure ne porte pas ses fruits, il y a pire qui mijote dans les fourneaux de certaines officines de parti, avez-vous prévenu ?
Alors oui, on sait qu'il y a d'autres initiatives qui sont également en cours de préparation. Il s'agit donc aussi de convaincre la population du bien fondé du dispositif voulu par les chambres fédérales. Et je crois que ce qui est important, c'est que les entreprises, les services de l'État collaborent le plus étroitement possible pour que justement ce dispositif puisse être couronné de succès, en tout cas qu'il soit suffisamment convaincant pour rassurer la population suisse et la population jurassienne, naturellement.
L'entretien avec Claude-Henri Chalère, chef du service cantonal jurassien de l'économie de l'emploi, était réalisé par Gabriel Devec.
Place publique.
Un match de football arrêté suite à des débordements de pseudo-supporters du Lausanne Sport qui s'en sont pris aux fans de Thun. Les images du stade de la Pontaise dimanche ont fait le tour du pays et posent à nouveau la question du hooliganisme en Suisse. Ces faits interviennent alors que dans la région, Neuchâtel-Xamax va retrouver la Super League la saison prochaine. Nous accueillons en direct par téléphone Julien Pralon, rédacteur en chef de la rubrique sport de l'ATS, l'agence télégraphique suisse. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, que vous inspirent ces derniers faits d'actualité liés au hooliganisme ?
Alors, je dirais deux choses. Dans un premier temps, je constate qu'après un exercice 2017-2018 qui avait été relativement calme, aussi bien en football qu'en hockey sur glace, les crispations de fin de saison ont favorisé un déchaînement des tensions un peu partout dans le pays. Ça, c'est mon premier constat. Et le deuxième constat, c'est plutôt un sentiment d'inquiétude et de doute. Je pense notamment à mes deux enfants, Luca et Manon, qui nous écoutent d'ailleurs en ce moment et qui aimeraient bien que je les amène voir des matchs de foot de temps en temps. Mais j'hésite parce que je ne sais pas exactement ce qu'on va y trouver.
Mais ces phénomènes, justement, ils provoquent une inquiétude chez le public classique, je dirais des matchs de football, monsieur et madame tout le monde, qui au vu de ces images peuvent, comme vous, se poser la question d'aller au stade ou pas.
Mais je pense qu'il ne faut pas commettre l'erreur de nier aux fouteurs de troubles la qualité de supporters. On entend souvent pseudo-supporters ou des expressions du type mais le football c'est autre chose. Non, il se trouve que dans le football et dans la plupart des sports d'opposition, il y a une partie de violence qui est inhérente à la discipline. Ça reste quand même l'affrontement stylisé de deux équipes. Donc il faut pas nier à ces supporters-là cette qualité de supporters. Ça fait partie du football. Maintenant, il faut trouver les moyens de pouvoir endiguer ces actes violents de manière la plus efficace possible.
Alors les moyens, on y viendra tout à l'heure, mais si on reste sur ce qui s'est passé dimanche à Lausanne, peut-être aussi l'agression qui a eu lieu le 28 avril de représentants d'agents de la police des transports par des supporters de Grasshoppers. Selon vous, on assiste à une recrudescence des phénomènes de violence liés uniquement à la fin de championnat, ou est-ce que c'est plus grave et ça pourrait perdurer sur le long terme ?
Alors écoutez, j'ai pas les chiffres. Mon impression première, c'est que cette saison a été plutôt calme par rapport à d'autres saisons. Si on prend l'unique exemple du hooliganisme, c'est une scène qui est plutôt sur le déclin en Suisse, les vrais actes de hooligan. On a affaire en revanche à des débordements et parfois à des actes de violence qui sont la plupart du temps du fait de groupes ultra. Le résultat est le même, mais la distinction est quand même assez importante. Recrudescence, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que effectivement, la grande différence, c'est que maintenant, ça peut vraiment frapper à peu près n'importe où et à n'importe quel moment, parce que je pense que peu de gens auraient classé a priori le Lausanne-Thun de dimanche dernier comme étant un match à risque. Donc c'est vraiment il faut peu de choses en fait. Il suffit d'un groupe, d'une dizaine d'individus qui décident de vouloir faire comme les autres. c'est-à-dire que mes groupes de supporters plus importants, pour qu'une situation dégénère.
Vous avez évoqué la différence entre hooligan et ultra. Si on veut résumer un petit peu simplement, le hooligan vient pour la violence, n'a rien à voir avec le football ou avec le club, alors que du côté des ultras, on est plutôt dans le mode non-violent, même si parfois ça peut déraper suite à des provocations.
L'ultra est vraiment là pour défendre les couleurs d'un club, les couleurs d'un groupe. L'ultra peut, de ce fait, basculer dans des actes répréhensibles après toute une série de provocations qui sont perpétrées dans les deux camps. Le hooligan est plus à considérer comme un bagarreur professionnel. À part pour les non-initiés, d'ailleurs, il n'a pas d'accoutrement particulier. Il ne porte pas les couleurs du club. Il est beaucoup moins politisé aussi que les groupes d'ultra. Donc non, il y a une vraie distinction à faire. Et cette scène-là, en Suisse, elle est plutôt sur le déclin.
Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ce qui a été surprenant dans ce qui s'est passé dimanche, c'est que finalement, Lausanne et puis Thun sont plutôt des clubs qui ont une réputation assez tranquille. Ce n'est pas une réputation plus sulfureuse comme celle d'autres clubs, comme parfois le FC Bâle ou le FC Zurich.
Voilà, c'est ça. Mais cela dit, je pense que ce n'est pas un hasard non plus si les supporters lausannois sont allés s'en prendre aux supporters tournois, lesquels les avaient moqués sur les réseaux Internet un peu plus tôt pendant la semaine. J'imagine assez mal la quinzaine de supporters lausannois qui ont causé les échauffourées dimanche essayer d'aller s'en prendre au groupe de la Muttenzer Kurve à Bâle ou bien de la Sud Kurve à Zurich. Là, il y a quand même, ils sont, je pense, conscients de leurs limites de ce point de vue-là.
Alors, on va évoquer les moyens pour essayer de lutter contre ce phénomène. On le sait, en Suisse, un concordat a été mis en place, un concordat intercantonal pour lutter contre le hooliganisme. Ce concordat, il existe. Il prévoit même des interdictions de stade et des obligations de se présenter à un poste de police à l'heure des matchs, hein, pour certaines personnes. Est-ce qu'il faut durcir les sanctions ou simplement appliquer les normes plus drastiquement ?
Alors, il faut déjà commencer par appliquer la loi telle qu'elle a été votée, telle qu'elle a été élaborée. Effectivement, des prononciations d'interdiction de stade sont devenues monnaie courante un peu partout dans le pays, de stade ou de patinoire, d'enceinte sportive, ce qui comprend aussi les périmètres des enceintes. Mais la vérité, c'est que l'obligation de se présenter à un poste de police à l'heure du match n'est pratiquement jamais demandée aux personnes qui sont condamnées. J'ai par exemple eu la police vaudoise après les incidents de dimanche, je les ai eus au téléphone. Jamais le canton de Vaud n'a encore obligé un interdit de stade de se présenter. Donc, commençons peut-être par appliquer la loi telle qu'elle a été votée. Et ensuite, peut-être qu'il faudra réfléchir à un durcissement des sanctions. Mais, et là ce n'est que mon avis, je pense que le plus gros du travail est à faire dans la prévention, mais là on dépasse de très loin le cadre du sport. C'est une question d'éducation, c'est une question de rapport à l'autre, de rapport à la violence. C'est une problématique qui est prégnante dans l'ensemble de la société.
Vous dites que finalement, les sanctions ne sont pas réellement appliquées aujourd'hui, hein, notamment l'obligation de se présenter à un poste de police. Pourquoi ce n'est pas appliqué alors que la loi existe ?
Alors, tout est une question d'argent. C'est toujours le nerf de la guerre. Et le problème étant, c'est ce qu'on entend souvent du côté des forces de l'ordre, c'est que pour obliger quelqu'un à se présenter à un poste, il faut par définition que le poste soit ouvert, qu'il y ait des agents à l'intérieur du poste qui puissent recevoir, accueillir et encadrer les personnes à qui il a été demandé de venir se présenter. Et il faut aussi pouvoir agir dans l'éventualité où la personne qui devait se présenter ne se serait pas présentée. Donc tout ça, ce sont une fois de plus des moyens financiers, des moyens humains à mettre à disposition. Et l'État n'a pas... l'État, c'est un peu comme tout le monde depuis une bonne décennie. C'est qu'on est plutôt à compter ses sous et à voir où on peut économiser plutôt qu'à dilapider son argent.
Donc en l'état, pour vous, faire du hooliganisme un délit pénal, comme le suggérait récemment le conseiller d'État vaudois Philippe Lebas. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne idée, c'est-à-dire renforcer les sanctions, et si quelqu'un ne se présente pas au poste de police à ce moment, alors qu'il est interdit de stade, alors à ce moment-là, il pourrait y avoir une peine d'emprisonnement, alors qu'aujourd'hui, c'est une simple amende.
Écoutez, moi, je pense, enfin, pourquoi pas, a priori, j'ai pas d'avis négatif sur la question. Mais je crois vraiment que l'essentiel du travail doit être fait en amont, doit être fait dans la prévention et dans l'éducation. Et là, on est en train de parler de violence autour du sport. Mais si ces matchs de foot ou de hockey n'avaient pas lieu, sans doute que ce type de population aurait besoin d'un autre exutoire pour aller se défouler, pour aller se libérer de ses frustrations et de ses tensions. Ça a d'ailleurs été la fonction première du sport en tant que moyen de se faire la guerre de manière pacifiée, de manière codifiée, et pour offrir aux foules un lieu où elles pouvaient déchaîner sa colère, où elles pouvaient déchaîner ses passions. Donc ces problématiques existent depuis bientôt deux siècles. Il faut trouver un moyen d'offrir aux gens la possibilité de se défouler, tout en contrôlant, tout en adoptant les mesures nécessaires pour que de tels actes de violence ne se reproduisent pas. Parce que ce qu'il faut répéter quand même, en Suisse on a l'air de l'avoir oublié, mais c'est, ce type d'actes sont vraiment extrêmement dangereux. Envahir un terrain après un match, même si c'est pour fêter une victoire, c'est extrêmement dangereux. Les exemples ne manquent pas d'accidents, de catastrophes dans les stades et autour des stades. Et c'est là, je pense, que prévention, éducation, mais bien au-delà du sport, sont vraiment les premières mesures à prendre.
La Grande-Bretagne était un pays très confronté au hooliganisme dans les années 80, avec bien sûr le drame du Heysel. Et là, le pays a pris des mesures vraiment drastiques. Est-ce que c'est un modèle à suivre ?
Alors le modèle c'est d'ailleurs un peu le modèle que les autres pays ont suivi. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser pour la Grande-Bretagne, c'est que plutôt que d'éradiquer totalement la scène du hooliganisme, elle n'a fait que de la déplacer. Le hooliganisme qu'on pouvait avoir autour des terrains de football professionnel s'est déplacé dans les divisions inférieures et des actes de la même sorte continuent d'avoir lieu un peu partout dans le pays, mais dans des divisions inférieures dont on parle forcément moins.
Pour un club comme Neuchâtel-Xamax, hein, qui va retrouver la Super League la saison prochaine, ces événements, bien sûr, posent question. Qu'est-ce qui va changer en termes de sécurité pour un club comme Xamax ?
Ah ben, Monsieur Bingley va devoir sacrément augmenter l'enveloppe de sécurité, ça c'est sûr, parce que c'est pas les mêmes exigences déjà du point de vue de la Swiss Football League, qui demande au club de Super League plus de moyens. Et c'est pas les mêmes publics ni le même nombre de spectateurs qui se déplacent au match. Donc forcément, l'enveloppe va grossir, il y aura plus de matchs à risque. Donc il faudra vraiment un concept solide et des moyens financiers pour pouvoir assurer cette sécurité au match.
Alors les moyens financiers, c'est souvent là que le bas blesse, ou en tout cas qu'il y a des débats, puisqu'on s'en souvient, il y a quelques années, hein, la question avait été très sensible dans le canton de Neuchâtel, avec un conflit entre le club, le canton. Une convention avait finalement été signée en 2013. Alors avec l'accession de Neuchâtel-Xamax en Super League, ce document devra être renégocié. C'est vraiment aussi là, pour le coup, la question des finances qui parfois pose problème.
Alors la question des finances, mais de manière plus générale, la question de la place du football dans la vie d'une ville, puisque la police, et c'est pas du tout une critique, je constate, la police facture ses services pour de tels événements, comme si c'était des événements qui étaient totalement exceptionnels, à l'image de l'organisation d'un concert d'une grande star à la Maladière, par exemple. Alors voilà, c'est un parti pris. Maintenant, peut-être qu'on peut se dire à l'inverse qu'un match de football de Neuchâtel-Xamax, donc ça va arriver au minimum 18 fois dans l'année qui va suivre, donc ça veut dire quand même plus d'un tiers des week-ends de l'année. Est-ce que finalement un match de football n'est pas un événement, je dirais, de la vie quotidienne d'une ville, fait partie de la panoplie, fait partie entièrement du cahier des charges, du cahier des charges de la police. La police n'envoie pas de facture à chacune de ses interventions, me semble-t-il, en tout cas pas encore. Donc il faut, ça pose cette question-là, ça pose la question de quel, ça pose la question du rôle que joue le football dans une ville. Voilà. Donc voilà, maintenant évidemment, là on est sur un débat de type philosophique. La réalité est qu'il y a des comptes à boucler en fin d'année. Donc il y aura des négociations forcément, mais je trouve que ce type de débat doit être mené pour vraiment se poser la question du rôle que joue le football dans une ville, dans la vie d'une ville sur toute une année.
Et ben c'est sur ce débat en cours qu'on va se quitter. Julien Pralon, merci d'avoir été en direct dans cette émission. Très belle soirée. Place publique.